Mes chers compatriotes, il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties.
C'était hier soir, à la fin de son intervention télévisée, le président de la République remettait en cause notre système de développement. Propos étonnant dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui concluait en affirmant que les prochaines semaines nécessiteront donc des décisions de rupture. Était-ce un message en direction des écologistes, alors que la crise du coronavirus bat son plein et que le pays et les pays du monde entier prennent des décisions inédites et très contraignantes pour protéger les populations du coronavirus? Eh bien, nous trouvons-nous dans une sorte de répétition générale des mesures à prendre face à l'urgence climatique. On en parle tout de suite avec le chercheur François Gémen, qui est notre invité. Cette émission écourtée est réalisée par Valérie Ayestaraï, avec à la technique Elisabeth Collet et Fabrice Desmaz.
Mathieu Vida, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur en géopolitique de l'environnement, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège, enseignant à Sciences Po Paris et à l'Université Libre de Bruxelles et auteur principal pour le GIEC. Emmanuel Macron disait donc les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture. Est-ce que cette phrase du président de la République, François Gémen, peut nous raconter quelque chose de l'avenir environnemental de la planète?
Il est certain que la situation actuelle nous en apprend beaucoup. En réalité, nous sommes prêts à prendre des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus radicales pour nous protéger du coronavirus que celles que nous sommes prêts à prendre pour nous protéger du changement climatique. Et donc, naturellement, cela nous interroge. Pourquoi est-ce que nous avons à ce point davantage peur du coronavirus que des menaces qui sont liées au changement climatique? Pourquoi est-ce que nous sommes prêts à prendre maintenant toute une série de mesures qui sont aussi, au fond, recommandées pour lutter contre le changement climatique?
Qu'est-ce que ça dit alors de notre perception de la peur, finalement?
Je pense que la grande différence entre les deux, c'est que le coronavirus et la peur qui l'accompagne, c'est la peur de contracter soi-même la maladie, et tout de suite, il y a un sentiment d'immédiateté et de proximité. Alors qu'à l'inverse, le changement climatique apparaît volontiers pour quelque chose qui n'arrivera qu'aux autres, qui arrivera dans longtemps ou qui arrivera dans des régions relativement lointaines. Et donc nous avons quelque part créé une distance entre nous-mêmes et le changement climatique. Et il faut pouvoir s'interroger sur cela, y compris sur les erreurs que nous avons pu faire, nous chercheurs, en termes de communication, en ayant des projections de long terme sur 2050, sur 2100, en soulignant que les pays en développement seraient plus touchés que les autres. Est-ce qu'au fond, nous n'avons pas aussi créé une distance entre la population et le changement climatique, qui fait qu'une série de mesures qui s'imposent urgemment, nous ne sommes à l'évidence pas prêts à les prendre pour le moment.
Est-ce qu'il est utile de s'interroger dès maintenant sur ces questions-là, alors que nous sommes en pleine crise, que des mesures draconiennes sont prises contre le virus, que des personnes souffrent, que des personnes vont perdre leur travail, que des personnes ont peur de l'organisation nouvelle qui s'impose? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de façon pertinente du climat, de la biodiversité, de la crise que va traverser le monde plus tard et déjà dans lequel nous sommes?
Bien sûr, je le crois, parce que bien sûr, les services opérationnels d'urgence, évidemment, sont sur le pied de guerre. Mais d'un autre côté, nous chercheurs allons avoir maintenant pas mal de temps devant nous, et c'est l'occasion aussi de mettre ce temps à profit pour réfléchir sur ce que cette crise nous dit des mesures que nous pourrions prendre. Et même si nous manquons encore un peu de recul, évidemment, la grande question, c'est quelles leçons est-ce que nous allons tirer de ces mesures. Parce qu'au fond, ce qui est en train de se passer, c'est une très belle leçon de solidarité nationale. Nous sommes prêts à tout cela, au fond, pour protéger les plus âgés, pour protéger les plus fragiles dans notre société, et tous les autres sont d'accord de s'imposer des contraintes assez exceptionnelles, assez extraordinaires. Et donc, on peut se dire, si nous sommes prêts à cette solidarité au niveau national, pourquoi ne le sommes-nous pas au niveau international? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire montre d'une même solidarité vis-à-vis de ceux qui sont au-delà de nos frontières? Et quelque part, alors que nous sommes face à une crise mondiale aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est 120 ou 150 pays qui gèrent chacun une crise sanitaire nationale. On le voit bien, l'Union européenne est aux abonnés absents, la coopération internationale fait défaut. Et donc, je crois que le gros enjeu de cette crise, c'est de voir si nous allons pouvoir déployer le même type de mécanismes de solidarité au-delà de nos frontières nationales.
Alors encore deux citations dans un tweet hier. Cyril Dion se demandait si après justement le Covid-19, on sera en mesure de transposer la même chose pour le péril climatique et l'extinction de masse de la biodiversité. Et puis Corinne Le Quéré, la présidente du Haut Conseil pour le Climat, s'exprimait mercredi lors d'une séance plénière au Conseil économique, social et environnemental. Et je vous propose, François Gémen, de l'entendre.
Sans pousser l'analogie trop loin, on voit bien
avec l'actuelle crise sanitaire liée au coronavirus, la capacité des gouvernements à agir dans l'urgence pour l'intérêt général. En réponse à l'épidémie, des plans d'action sont développés sur la base de données scientifiques et actualisées. Des sommes importantes sont débloquées au niveau national et européen pour aider les entreprises à passer le cap. On sait donc répondre aux urgences.
Voilà, donc il n'échappera à personne que des efforts sont possibles lorsque la situation est urgente, et elle l'est pour le climat.
Et ça montre aussi que nous sommes capables, quand nous le voulons, d'écouter strictement et d'appliquer les recommandations des scientifiques.
Ça veut dire quoi? Les mots sont les mêmes finalement, crise climatique, crise sanitaire, urgence climatique, mais les actions qu'il y a derrière ne sont pas les mêmes. Comment on l'explique?
Je dirais d'abord par le fait qu'il y a cette distance qu'on a créée vis-à-vis du changement climatique, et donc on peut s'interroger aussi sur la communication que nous avons eue vis-à-vis de cela, et je pense qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le lien entre environnement et santé, alors que certains y travaillent. Le centre Virchow-Villermé à Paris travaille sur cette question, le Lancet Countdown a pris l'initiative en insistant sur le fait qu'il fallait bien davantage insister sur les impacts sanitaires du changement climatique pour que ça concerne les gens. Et puis une autre grande différence, je crois, c'est que face à la crise sanitaire, nous sommes dans une situation de crise. Et donc, on espère qu'il y aura un retour à la normale. Nous prenons ces mesures parce que nous savons qu'elles seront temporaires, qu'elles dureront 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Par rapport au changement climatique, nous ne sommes pas dans une crise climatique. Il n'y aura pas de retour à la normale. C'est une transformation irréversible que nous avons enclenchée. Et donc, on sait que si nous prenons ce type de mesures, ce sera pour toujours.
François Gémen, finalement, ce coronavirus, est-ce que c'est d'abord et avant tout lié à une crise environnementale? Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, le résumer de cette façon-là?
D'une certaine manière, si effectivement les travaux sur l'origine du coronavirus et de la crise se confirment, et s'il s'avère bien que c'est un pangolin qui est à l'origine de la crise, effectivement, on pourra dire que ça touche aussi à notre rapport avec le vivant.
Mais de toute façon, c'est la question de l'élevage intensif aussi.
De toute façon, c'est lié à nos pratiques humaines aussi. C'est la question des marchés des animaux et des marchés aux bestiaux. Et donc, effectivement, quelque part, c'est en quelque sorte la Terre qui se retourne aussi un peu contre nous.
Moi, je voudrais revenir sur certaines déclarations ces derniers mois et même dernières années de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui disait, lui, encore en janvier, face à la Convention citoyenne pour le climat, qu'on ne pouvait pas faire les choses du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment une phrase qui revient très régulièrement, une expression. Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, en parlait encore cette semaine dans Libération, en parlant de la complexité de la transition écologique. On a vu Brune Poirson aussi parler de faire une transition radicale mais pas brutale. Mais est-ce que finalement, tout ça traduit une forme d'hypocrisie ou d'impuissance? Parce qu'au final, est-ce qu'il ne faudrait pas un choc pour aussi s'occuper de la situation climatique?
C'est vrai que le paradoxe du moment, c'est que quelque part, nous allons assister cette année sans doute à une réduction assez drastique des émissions de gaz à effet de serre. Et quelque part, ce choc, nous l'avons via la crise du coronavirus. Et ça dit beaucoup au fond que les mesures les plus efficaces en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne soient pas des mesures de politique climatique, mais des mesures de politique sanitaire. Et donc ça prouve que ce choc, effectivement, il est possible et que nous voulons appliquer les choses de façon radicale et urgente si nous le voulons. La question, c'est pour combien de temps? Et quel sera le retour à la normale? Est-ce que nous allons prendre de nouvelles habitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer durablement dans l'organisation du travail ou de l'économie? Ou est-ce que, sitôt la crise passée, nous allons revenir à la normale d'avant? Ça, c'est la grande question sur laquelle il faut se pencher.
Mais François Gémen, ces chocs concernant l'environnement, ils existent déjà. Nous y assistons en permanence. Les feux de forêt, les incendies en Amazonie, en Australie, l'effondrement de la biodiversité en de multiples endroits. Donc on est déjà face à tout ça.
Tout à fait, mais nous n'avons pas l'impression d'y être confrontés directement nous-mêmes.
Les canicules, quand même.
Je pense qu'un problème avec le changement climatique, c'est que nous n'avons pas l'impression que les mesures que nous pourrions prendre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre produiront un effet immédiat. Et d'ailleurs, c'est le cas. Il y a un phénomène d'inertie climatique qui fait qu'il y a à peu près 2 générations, l'espace de 50 ans, entre ce que nous faisons aujourd'hui et la manière dont le climat va y réagir. Raison pour laquelle les jeunes sont tellement en colère face à leurs parents et à leurs grands-parents, et pour laquelle on a un peu ce conflit de génération aujourd'hui. Et donc on se dit, je crois, que même si nous agissions radicalement sur le changement climatique, quelque part, il faudrait attendre avant d'en voir les effets. Et je crois que c'est effectivement ce qui nous met dedans, si vous passez l'expression.
Ouais, pourtant, il y a des effets immédiats. On regarde la qualité de l'air, par exemple, en Chine. C'est absolument spectaculaire avec l'arrêt, évidemment, de l'industrie, ce qui se passe aujourd'hui. Et paradoxalement, avec la crise du coronavirus, il y a des milliers de vies qui sont sauvées aussi en Chine.
C'est un des grands paradoxes. La pollution atmosphérique en Chine tue 1 100 000 personnes chaque année. On estime qu'elle a été réduite de 30% depuis le début de l'année. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de vies qui auront été épargnés grâce au coronavirus. La pollution atmosphérique tue 48 000 personnes chaque année en France. On peut imaginer aussi qu'il y a des centaines, sinon des milliers de vies qui seront épargnées grâce au ralentissement de l'activité économique.
Sachant que des chercheurs spécialistes de la pollution, de la qualité de l'air, tempèrent en tout cas pas sur la baisse de la pollution de l'air en Chine, mais sur l'éventuelle baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ils disent de toute façon, pour que ce soit durable et que ça ait un vrai effet à terme, il faudrait que ça soit ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc,
c'est sûr. Mais il y a une partie des émissions qui ne sera pas récupérée. Bien sûr,
celle des avions qui ne décollent pas.
Les événements annulés, les avions qui n'ont pas décollé, ça ne sera pas rattrapé.
François Gemen, lorsque Trump annonce la fermeture des frontières américaines pour les voyageurs européens, ça veut dire justement des avions en moins. Est-ce qu'il a pris, sans le savoir, l'une des meilleures décisions écolo de ces dernières années?
Sans doute, si on regarde l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est certain que ça va avoir un impact immédiat. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille absolument interdire les voyages en avion entre l'Europe et les États-Unis. On ne peut pas non plus avoir comme solution au changement climatique un monde où les échanges, et notamment les échanges internationaux, n'existeraient plus du tout et où chacun resterait confiné chez soi en mode survivaliste. Et donc, je ne pense pas que ça puisse être quelque chose de souhaitable. Et d'ailleurs, le grand problème, c'est que ces mesures, aujourd'hui, nous les subissons. Ce n'est pas des mesures que nous avons décidées, que nous avons choisies, que nous avons souhaité. Le grand enjeu, c'est de voir comment nous allons pouvoir transformer ce que nous avons subi en quelque chose que nous pourrions choisir.
Est-ce qu'il fallait reporter les élections municipales, selon vous ?
Honnêtement, je ne suis pas épidémiologiste ni spécialiste de santé publique. Et j'ai tendance à faire confiance aux scientifiques. Si les scientifiques ont dit qu'elles pouvaient se tenir sans problème particulier, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être le cas. C'est vrai que mon intuition personnel aurait été de dire peut-être qu'il aurait été sage de les reporter, mais si les scientifiques approuvent leur tenue, je n'ai pas de raison de contester cet avis.
Vous évoquiez tout à l'heure le temps long, le temps court. Est-ce que c'est aussi pas ça quelque part la clé du politique? C'est qu'aujourd'hui le politique regarde le temps court, ou très moyen, en tout cas regarde les échéances électorales, et c'est un vrai problème pour résoudre l'urgence climatique en l'occurrence.
Absolument. Comme la plupart des pays industrialisés qui doivent réduire leurs émissions drastiquement sont des démocraties avec un temps électoral assez court, ça veut dire qu'aucun dirigeant ne peut avoir la prétention de se présenter à ses électeurs avec un véritable bilan en matière de réduction des effets. Il peut avoir réduit les émissions, mais peu les effets. Mais par contre, il va y avoir un impact électoral assez immédiat, je crois. Et peut-être l'impact le plus positif pour le climat, c'est si jamais la donne de l'élection présidentielle américaine change. On sait que pour le moment, ce qui maintient Trump au plus haut dans les sondages d'opinion, c'est le bon état, la bonne forme de l'économie américaine. Si l'économie ralentit, on sait que traditionnellement, ça profite aux démocrates, et donc ça serait tout gain pour le candidat démocrate qui sera en face de lui. Et donc peut-être que l'élection américaine va se jouer là-dessus. Il est certain qu'une défaite de Trump serait une excellente nouvelle pour le climat.
François Gemen, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même avec les mesures très contraignantes en ce moment de démotiver la population sur des mesures similaires qui seraient à prendre justement dans le cadre de la transition énergétique, écologique?
Comme je le disais, ce sont des mesures que nous subissons. Et donc qui risquent peut-être d'entraîner un phénomène de rejet de la population. Les gens risquent de se dire, nous sommes d'accord de faire cela pendant un temps relativement court, 2 ou 3 semaines, mais il est hors de question que ce soit la nouvelle normalité. Et donc, il faut vraiment voir comment nous allons transformer cela en quelque chose que nous choisissons. Et bien entendu, nous ne pourrons pas maintenir l'ensemble de ces mesures ad vitam aeternam. Il y a un certain nombre de mesures qu'on pourra conserver, sans doute davantage de recours au télétravail, la limitation de certains déplacements non essentiels. Mais pour le futur, il faut vraiment dessiner un projet politique maintenant.
Ça va servir à la cause climatique, selon vous, ce qui se passe en ce moment-là, ou
tout,
pas?
Je dirais, tout dépend d'une part de la durée de la crise et des mesures qui seront prises, et tout dépend aussi de ce qu'on en fera. Raison pour laquelle il me semble très important de pouvoir commencer à réfléchir dès aujourd'hui sur ce qui est après tout aussi une gigantesque expérimentation sociale.
Absolument.
Et une très belle leçon de solidarité.
Merci beaucoup en tout cas François Gemen d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je vous laisse filer parce que je sais que vous avez un train à prendre, donc vous pouvez quitter ce studio tout de suite. Merci beaucoup de votre venue. Le temps pour moi de vous annoncer le programme de la demi-heure qui va suivre juste après les infos. Ce sera la chronique détox de Caroline Tourbe, consacrée aujourd'hui justement à la première baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre lié à la production d'électricité. Le charbon est en cause. Caroline nous en parlera dans quelques minutes. Et puis aux minutes de la deuxième demi-heure, ce sera vos solutions pour la planète avec Mathieu, un auditeur de Toulouse qui travaille pour une association qui collecte et composte les déchets des restaurants. Et puis enfin, notre invité découverte est un anthropologue islandais, il s'appelle Gilsi Palsson, pour un livre passionnant, Ma maison au pied du volcan, qui raconte l'histoire de l'éruption gigantesque d'un volcan en 1973 qui a beaucoup marqué l'Islande, il va nous en parler tout à l'heure.
France Inter. La Terre au carré.
Merci de nous rejoindre dans La Terre au carré, donc au menu de cette deuxième demi-heure. Collecte de déchets et volcan islandais. Mais pour le moment, c'est l'heure de votre chronique détox. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour Mathieu.
Les émissions de CO2 liées à la production d'énergie, le coronavirus va-t-il renforcer la tendance à la baisse ou l'annuler?
Oui, alors souvenez-vous, la semaine dernière, nous évoquions ces cartes de la NASA montrant la région de Wuhan en Chine, épicentre du coronavirus, presque vierge de toute pollution industrielle. Les émissions mondiales de CO2 ont baissé d'au moins 6% en fin février en Chine. Vous en parliez également avec votre invité en première partie, François Guémen. Mais les usines à l'arrêt, les centrales à charbon ont ralenti. Ça se sent aussi dans les rues, avec 20 à 30% de particules fines en moins. Et dans la capitale, à Pékin, la différence était notable pour les rares patients rencontrés dans la rue.
Ce n'est pas pollué aujourd'hui. J'ai même pu sortir faire du sport.
Quelles que soient les raisons, on apprécie. On espère que la pollution en général va continuer à baisser car tout le monde veut des ciels plus clairs et un air plus pur.
Des ciels plus clairs, un air plus pur. Alors ce phénomène de baisse de la pollution urbaine s'observe également en Italie pour les raisons que l'on connaît. Mais en fait, la question c'est de savoir si au final le coronavirus ce sera une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le climat. Alors il y a déjà des personnes qui tablent sur un changement général des habitudes de vie et des niveaux de production, mais la plupart des chercheurs s'inquiètent plutôt, eux, d'une hausse des émissions de CO2 une fois la crise sanitaire passée, un rebond qui annulerait ses effets à première vue positifs sur les gaz à effet de serre et donc sur le climat.
Et c'est dans ce contexte particulier, Caroline, qu'une bonne nouvelle est presque passée inaperçue lundi dernier.
Oui Mathieu, c'est une nouvelle encourageante qui porte sur le bilan de l'année dernière. En 2019, les émissions mondiales de gaz à effet de serre du secteur électrique ont baissé pour la première fois depuis 30 ans. Une diminution qui frôle les 2% selon le bilan du groupe Amber qui réunit des experts indépendants. Donc sans lien avec la pandémie que nous affrontons en ce moment, le monde a donc commencé à rejeter doucement un peu moins de CO2 pour produire son électricité.
Alors à quoi serait dû ce bon résultat selon ce groupe d'experts?
Il est en lien direct avec une diminution des émissions liées à l'utilisation du charbon dans les centrales électriques. Pour mémoire, le charbon à lui tout seul, c'est 40% du mix électrique. Autrement dit, il est la source principale de notre électricité sur la planète. Donc quand ça baisse du côté du charbon, ça se ressent tout de suite. Et en 2019, les émissions liées à la production d'électricité par les centrales à charbon ont chuté de 3%.
Alors c'est une nouvelle tendance ou une baisse exceptionnelle?
C'est la question. Mm-hmm. Pour certains experts, l'année 2019 a marqué le début d'un vrai mouvement de fond. Et pour d'autres, c'est tout simplement lié à une petite baisse de croissance et à des températures clémentes. C'est par exemple l'avis de Frédéric Guerzy du Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Tandis que de son côté, Karine Sebi, enseignante chercheuse à Grenoble École de Management, estime, elle, que nous sommes bien devant un renversement de tendance, même si elle est timide.
Donc une chose est sûre, c'est que le recul du charbon est bien amorcé dans les pays développés.
Oui, cette nouvelle tendance est principalement due à une chute de son usage en Europe et aux États-Unis. En Europe, son utilisation a même décliné pour la 7e année consécutive, notamment en raison des politiques climatiques. Bon, évidemment, il reste encore de très mauvais élèves, comme la Pologne, qui ne prévoit pas du tout de sortir du charbon. On écoute l'analyse de Robert Tomaszewski, analyste du secteur énergétique dans un cabinet d'études polonais.
C'est important pour le sentiment de sécurité nationale. Si vous prenez le gaz, par exemple, on en importe 80% de Russie. Le charbon, lui, c'est une énergie locale. Il est à notre disposition. Personne ne peut nous en priver.
Alors aux États-Unis, c'est un peu l'inverse parce qu'ils ont commencé à exploiter leur gaz de schiste local qui est à eux et la part du charbon a diminué.
Et la consommation de charbon y a atteint son niveau le plus bas, donc depuis 40 ans,
oui,
c'est ça?
Oui, comme on remplace le charbon par le gaz, ça permet de réduire de moitié environ les émissions de gaz à effet de serre. Disons que c'est moins pire, même si évidemment ça reste une énergie fossile et que ça ne permet pas de décarboner la production d'électricité.
On en revient à la Chine, Caroline.
Oui, alors en 2019, elle n'a pas joué de rôle important dans la tendance à la baisse mondiale, sachant qu'à elle seule, elle représente plus de la moitié des émissions globales liées au charbon. Bon, évidemment, impossible de savoir ce que l'année 2020 nous réserve, comme vous le disiez, votre invité en première partie. Mais ce qui est clair, en revanche, ce sont les estimations du GIEC. Il faudrait que l'électricité générée à partir du charbon diminue de 11% par an d'ici à 2030 pour nous permettre de limiter le réchauffement à 1,5°, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Donc avec la timide inflexion de 2019, nous en sommes encore moins.
Merci beaucoup Caroline Tourbe. Votre chronique détox est bien sûr à réécouter sur le site de La Terre au Carré. À la semaine prochaine.
France Inter. La Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Et nous sommes en ligne avec Mathieu qui est à Toulouse. Bonjour à vous.
Bonjour. Merci de nous recevoir.
Avec plaisir, Mathieu. Vous êtes le président, cofondateur des alchimistes Oxyterra Toulouse, qui collecte et composte les déchets des restaurants, justement, de la ville. Collecteur et composteur, c'est un nouveau métier?
Alors, c'est exact. C'est-à-dire que nous collectons les déchets alimentaires des professionnels, que ce soit restaurateurs, supermarchés, écoles, hôpitaux, ou encore, et on l'espère à venir, ceux des particuliers. Nous fabriquons du compost en circuit court. Nous concevons, installons et exploitons des unités de compostage, on va dire à taille micro-industrielle, qui nous permettent de traiter des volumes significatifs de déchets. Des déchets comprenant également des sous-produits animaux, comme la viande et le poisson, tout en le faisant de manière professionnelle, sans risque sanitaire. Nous fabriquons donc un super compost en un temps réduit de 8 semaines à la différence d'un compostage classique de 9 mois.
Ah oui, ça va vite, ouais.
Notre procédé permet également de limiter l'emprise au sol par rapport à une unité de compostage classique. Et le but du projet est également de s'implanter au plus proche du gisement, au plus proche de l'endroit où les déchets ont été produits, pour éviter effectivement le nombre de kilomètres parcourus par ces déchets, mais également de rendre ces sites facilement visitables, de manière à ouvrir la boîte noire des déchets pour permettre à tous finalement de s'approprier les conséquences de son geste de tri et de rendre ce service le plus transparent possible.
Et alors justement, Mathieu, vous faites comment pour collecter ces déchets? Vous n'avez pas un camion poubelle, ou alors vous avez un camion poubelle écolo?
Alors il y a plusieurs modes de collecte. Dirons-nous qu'on est en train de créer un nouveau métier qui est celui de composteur, de collecteur-composteur. C'est un métier plutôt complet qui va de la collecte des déchets chez le restaurateur jusqu'à la transformation en compost. Je dirais même jusqu'à la livraison en compost. Ça, on en est 3/4 du temps. C'est-à-dire que le collecteur-composteur est responsable de tous les maillons de la chaîne. On va essayer de remettre un petit peu de sens dans ce métier, de manière à décloisonner les activités pour les rendre plus épanouissantes. Aujourd'hui, à Toulouse, c'est en vélo. Peut-être qu'un jour, ce sera avec un autre mode de collecte. On peut imaginer des collectes à cheval, des collectes en camion électrique ou en biogaz ou à l'hydrogène, par exemple.
Ouais, vous faites tout à vélo, Mathieu?
Alors aujourd'hui, on est essentiellement sur une collecte à vélo basée à Toulouse, avec une cinquantaine de points de collecte.
Oui.
Et en restant réaliste, on se rend compte assez rapidement qu'aujourd'hui, 90% des déchets alimentaires en France finissent à l'incinération, à l'enfouissement, et que pour pouvoir tous les sauver, finalement, c'est assez complexe de le faire en vélo.
Et comment vous faites? Alors, vous les transportez dans des petites carrioles? Vous prenez combien de kilos, par exemple, par jour, par semaine? Combien vous collectez?
Donc, actuellement, si on devait reprendre les chiffres de Toulouse, on collecte entre 5 et 10 tonnes de déchets organiques par mois. Essentiellement en vélo électrique plus remorque. Nous utilisons des vélos électriques, bien sûr, avec assistance électrique et des remorques plutôt costauds qui permettent de prendre jusqu'à 300 kilos de déchets organiques.
Oui. Et donc tout ça pour les restaurateurs de Toulouse, hein, c'est bien ça. Alors, qui est Roberta exactement, Mathieu, s'il vous plaît? On aimerait faire connaissance avec elle.
Alors, Roberta, c'est une petite machine et c'est le surnom assez sexy qu'on a donné à notre premier électrocomposteur, mais je préfère qu'on
C'est vrai,
parle de
absolument. Ouais.
Ouais, je préfère qu'on parle de microsite de traitement des biodéchets.
Comme par hasard, vous lui avez donné un prénom de fille. Vous auriez pas pu l'appeler avec un prénom d'homme.
Robert, voilà.
on verra, c'est sorti un peu comme ça, mais je préfère vraiment éclaircir le fait qu'il n'y a pas que cette machine, mais un ensemble de procédés qui vont se succéder pour former un site de traitement. L'idée du process, c'est vraiment d'optimiser les conditions de compostage, de permettre aux bactéries de détériorer la matière le plus rapidement possible, donc de gagner du temps de manière significative en comparaison à un compostage classique. Si vous voulez, Roberta, aujourd'hui, c'est vraiment une succession de machines qui permettent de traiter la matière, mais pas seulement la technologie d'électrocomposteur.
Donc c'est votre tube digestif, on pourrait presque dire les choses comme ça.
On pourrait presque dire les choses comme ça, dans le sens où effectivement, c'est une installation qu'il faut alimenter de manière régulière, que les bactéries fonctionnent de manière naturelle, donc il ne faut pas les déboussoler. Elles vont nous permettre de gagner du temps, elles vont nous permettre de gagner énormément d'espace par rapport à une installation classique versus le compostage classique. Elles vont nous permettre de traiter beaucoup plus de déchets, mais le gros avantage de ce process, c'est qu'on va pouvoir monitorer ce qui se passe dans cette machine. Le cycle de transformation va être suivi. On va assurer un certain nombre de points comme l'hygiénisation de la matière, le fait qu'il n'y ait pas de risque sanitaire et bien sûr tout ça en phase avec les réglementations. Sans oublier que grâce à cette machine, grâce à Roberta, on va pouvoir redistribuer ce compost qui sera ensuite redistribué dans le cadre de production agricole et compatible avec l'agriculture biologique, bien sûr.
Eh ben, bravo pour votre démarche, en tout cas Mathieu, donc pour l'instant avec les restaurateurs du Toulouse, et puis ça va certainement s'agrandir, et puis en espérant que vous pourrez procéder encore plus loin, parce que vous faites vraiment du local pour l'instant, et pour ceux que ça intéresse, eh ben, il suffit d'aller sur le site Alchimiste Oxyterra Toulouse. Toutes les infos sont en lien sur la Terre au Carré. Merci Mathieu d'être passé par chez nous, et bon week-end à vous, et bonjour à Roberta quand même.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Allez, dans un instant, notre invité découverte, il vient d'Islande, c'est un anthropologue, il publie un livre, Ma maison au pied du volcan, il s'appelle Gísli Pálsson.
Je choisis de partir en avance. Je choisis d'être mu d'impatience. Je choisis l'océan qui s'avance. J'ai choisi.
Octave Noir, j'ai choisi à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
23 janvier 1973, le volcan El Gafeld entre en éruption. Les habitants de Vestmannaeyjar voient s'ouvrir derrière eux une faille de 2 km de long qui crache des flammes.
Au bout de 24 heures, nous sommes arrivés sur place et nous avons vu une éruption qui n'est pas spécialement forte, qui serait presque normale pour l'Islande. Seulement, elle était vraiment émouvante puisqu'elle avait lieu tout près des habitations. La fissure s'est ouverte à quelques mètres des premières maisons.
Ce volcan, depuis 5000 ans, n'avait pratiquement pas fait parler de lui.
Pas du tout, même le Helgafell était presque considéré comme éteint, même par les volcanologues islandais, et ils avaient bien raison de le considérer comme tel, j'aurais dit la même chose.
Voilà, c'était la voix du volcanologue Maurice Kraft. Bonjour, Gísli Pálsson.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous en direct dans la Terre au Carré. Vous enseignez l'anthropologie à l'université de Reykjavik et vous êtes l'auteur d'ouvrages sur l'environnement et la biomédecine. Et le livre dont vous venez nous parler s'intitule Ma maison au pied du volcan. Il paraît en France aux éditions Gaïa. Et vous racontez dans ce livre un événement majeur qui s'est produit donc en 1973. On l'entendait dans l'extrait avec l'éruption du volcan de la petite île d'Emae. Un souvenir qui reste au moins dans tous les esprits des Islandais. Et cette île où s'est produit justement cette éruption, c'est l'île de votre enfance, puisque votre maison d'enfance a été détruite par la lave en fusion, c'est cela?
Yes, I was born and raised in the Westman Isles.
Oui, c'est bien cela. Moi, j'ai donc vécu, je suis né d'ailleurs, sur l'île de Heimei. Et j'ai grandi dans une petite maison qui a disparu dans le cadre de cette éruption. Donc, elle a été engloutie par la coulée de lave. Et un de mes parents a tout suivi, a suivi le feu. Qui s'est propagé en l'espace de quelques minutes. Et récemment, je me suis senti obligé de me replonger dans mon enfance pour retracer cet événement incroyable de 1973, pour essayer de mieux comprendre, et ce, avec des documents disponibles, et en parlant avec les gens qui ont fui l'île, qui ont essayé de sauver tout ce qu'ils ont pu dans leur fuite. Personnellement, je n'étais pas sur place en 1973. J'étudiais l'anthropologie en Angleterre à l'époque, mais dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis précipité sur le téléphone et j'avais du mal à croire ce que l'on me disait. Mais pourtant, c'était bien réel. Et lorsque je suis retourné en Islande, je me suis rendu sur place et ma maison, dont le nom en islandais signifie habitat, avait disparu. Et par conséquent, c'est là que je me suis senti l'obligation d'écrire ce récit, ce que j'ai fait récemment.
Oui, alors c'est un récit qui a vraiment marqué les esprits. Il y a eu des images dans le monde entier à l'époque, en 1973, parce qu'il s'agit de l'évacuation de 5000 personnes, et surtout ensuite presque la lutte des hommes contre la lave. Il y a eu un travail absolument inouï qui a été fait de la part des hommes, des pompiers sur place, pour repousser la lave. Et ça, ça a été assez unique en son genre.
Oui, la bataille contre la lave était une bataille ô combien spectaculaire.
Scientifique,
Sigurgeirsson, un Islandais qui avait étudié auprès de Niels Bohr, un Danois lauréat du prix Nobel. Et il a dit qu'il fallait essayer de geler la lave, du moins l'arrêter dans ses pas et changer, la détourner de son cours. Plein de gens ont dit, mais c'est impossible, c'est une idée totalement imbécile, ça ne fonctionnera jamais. Mais l'ambassade des États-Unis a organisé les choses de telle sorte qu'une quarantaine de grosses pompes soient envoyées sur l'île. Ainsi, un maillage très complexe de tuyaux a été mis en place à même la lave. Et on a donc pompé pendant des jours, pendant des semaines. Et ainsi, on a pu détourner la lave. Et ça a été géré ainsi par les géologues et les scientifiques qui prodiguaient des conseils pendant ce chantier. Et évidemment, tout le monde se souvient de cet événement unique. Comme
absolument. C'est une histoire de fou, absolue. Oui.
Et comment résonnent les événements plus actuels, le volcan Taal aux Philippines ou le volcan dont je vous laisserai prononcer le nom d'ailleurs en Islande en 2010. Est-ce qu'il y a une résonance particulière ?
There are eruptions in many places.
Des éruptions volcaniques, on les trouve à de nombreux endroits.
And I thought about my book as a micro story.
Mon ouvrage, c'est une petite histoire qui est peut-être inscrite dans la grande histoire pour que l'on réfléchisse à des événements similaires qui ont lieu ailleurs, ces catastrophes naturelles.
Et
évidemment, il y a d'autres éruptions.
Et
dans certains cas, les éruptions sont plus spectaculaires et plus mortelles que celles dont nous parlons en 73. Il n'y a eu qu'un mort en 73 et c'est un cas d'intoxication des des émanations de gaz, de la lave. Autrement dit, comme vous dites, il y a des résonances. Il faut sans cesse avoir à l'esprit l'existence des volcans. Et mon livre vise à mettre en lumière ce qui se passe sous nos pieds. De temps en temps, nous sommes éberlués par des événements naturels, le tsunami, des éruptions, des choses comme ça. Mais bien entendu, la Terre, c'est quelque chose à laquelle il faut veiller. C'est un être vivant. Et mon livre est en fait un appel, un plaidoyer. Il faut veiller aux conséquences, au retentissement de l'anthropocène, cette ère qui est caractérisée par l'impact qu'a l'homme sur la planète depuis quelques décennies ou quelques siècles.
Et vous dites d'ailleurs, le réchauffement climatique est-il un volcan géant de notre maison aujourd'hui? De quoi méditer. Les éruptions volcaniques, justement, Gilsi Paulsen, font partie du quotidien des Islandais, donc vous êtes habitué à cela, mais pour autant, ça reste toujours quelque chose qui fait peur à la population ou pas? Ça a été le cas, en tout cas, on a le sentiment avec ce volcan-là en 1973.
There is always the present danger and as it happens,
cette menace, elle est présente dans tous les esprits en Islande. Quand j'étais jeune, on disait que deux villes d'Islande étaient sous la menace d'éruption. Donc les îles où j'ai grandi, et aussi
Grindavík,
qui se trouve au sud-ouest de l'île principale, proche de l'aéroport international, que pas mal de touristes connaissent. Et les volcans étaient considérés comme éteints. Puis il y a eu l'éruption de 73, des milliers d'années après la dernière éruption. Mais dans un passé plus récent, on a senti des secousses à Grindavík. Il y a deux jours, il y a eu on est arrivé à 5,8 sur l'échelle de Richter. On a même ressenti ça à Reykjavik. Donc aujourd'hui, on est préoccupé. On pourrait penser qu'il pourrait bien se passer des choses à proximité même de l'aéroport international.
Vous dites le refroidissement de la lave, justement, en 1973, a eu pour conséquence de donner naissance à un type de roche particulier, une roche qui a été créée par l'action humaine.
Yes, The eruption, the cooling of the lava shaped the,
oui, le refroidissement de la lave
and a particular
a eu
pattern,
un effet sur le flux de la lave. Un motif s'est dégagé de tout cela.
The form it took was,
et la forme qu'a revêtue la lave est telle qu'on peut dire qu'elle a été formée par l'homme, étant donné ce qui a été fait. Je ne peux pas vous donner les détails chimiques de cette matière, mais il faut noter que l'éruption
It's been argued recently by geologists that
oui.
Eruptions,
et telle, selon ce que disent certains géologues récemment, c'est que les éruptions ne sont pas étrangères à l'action de l'homme. Ça semble incroyable. Hein. Les éruptions, ça remonte
totally
des milliers d'années. On pensait que c'était naturel et pas du tout provoqué par l'action humaine. Mais aujourd'hui, il semblerait qu'avec le réchauffement climatique, la Terre est plus active que dans le passé.
With global heating,
avec le réchauffement climatique, en effet, la pression exercée sur la croûte terrestre est plus faible. Évidemment, les glaciers fondent. et la croûte terrestre a tendance à se fendiller, à s'ouvrir, et évidemment, cela est propice aux éruptions. Donc il y a une relation directe entre l'accroissement de l'activité volcanique et les activités de l'homme.
Voilà, c'est passionnant, ça s'appelle « Ma maison au pied du volcan », ça permet de voyager en Islande, Camille.
Moi, je voulais juste vous demander le titre original en islandais qui paraît beaucoup plus long que le titre en français. Est-ce que vous pourriez nous le dire et nous le traduire ensuite ?
Nous faire entendre la langue islandaise,
yes.
Très vite.
Yes, it's fjallið sem yfti öxlum. Literally, it means the mountain that struck its shoulders.
La montagne qui a frappé ses soldats.
I think it's probably difficult to translate in other languages.
Ça s'appelle Ma maison au pied du volcan, en tout cas, et c'est traduit chez Gaïa. Vous en êtes l'auteur, Gil Sipalson. Merci à Xavier Combes qui a assuré la traduction. Merci à vous et très bon retour en Islande. Merci d'être venu dans la Terre au Carré.
Beaucoup.